C'est l'heure de Chaba Radio. Il est l'heure de Chaba Radio. Sur Radio Galère.
Alors moi je suis Mystique, DJ et curatrice locale. Spécialisée dans les cultures musicales populaires, je serai accompagnée durant toute cette émission par l'artiste Roméa Diabla, ici présente, membre efficiente de Disco Inferno. Salut Roméa.
Salut.
Bienvenue à Marseille.
Merci.
On va revenir ensemble sur la naissance du collectif et de vos projets. La discussion sera suivie d'un live set hybride proposé par Post Tenebras, autre membre du collectif. Hello Juan. Avant de commencer, je vais présenter brièvement votre projet pour nos auditorices. Alors, Disco Inferno est un laboratoire pluridisciplinaire qui est né à Bogota, en Colombie, en 2019. Ils sont explorés la musique électronique latino-américaine, la performance et les arts graphiques. Plusieurs de vos membres sont engagés dans la mise en lumière des dissidences liées au genre, aux sexualités et à leur lutte via une pratique artistique globale qui confronte et déconstruit la culture punk et les folklores internationaux. Question numéro 1, comment est née votre initiative, dans quel cadre et quelles sont vos principales actions et revendications?
Oh. Alors, pour commencer, donc, comme tu l'as dit, c'est né en 2019, donc de trois personnes membres de RATRAP, qui est la maison culturelle punk où qui a vu naître le collectif. Donc c'était plutôt une proposition au départ... avant tout d'un collectif, c'était plus créer une programmation différente de celle qui existait déjà à RATRAP, qui était focus en fait sur le hardcore punk, parce que c'est une maison punk en fait qui a été créée il y a une vingtaine d'années et qui donc se spécialise dans la sérigraphie, dans l'organisation de concerts et dans une plateforme culturelle de la scène locale. Donc ça a commencé comme ça, à proposer quelque chose d'alternatif, donc avec plus de la musique électronique, noise, les inspirations de ces personnes qui étaient pas forcément club au départ, mais plus un truc alternatif au punk. Et au fur et à mesure, il y a eu... c'est une plateforme qui s'est développée en collectif... pendant le Covid, pendant la pandémie, ils ont organisé par exemple des lives sur YouTube pour aider des communautés locales qui étaient affectées par la pandémie. Donc à travers la musique, des récoltes de fonds pour ces communautés. C'était un peu une réponse à la non-action... yes, Marseille. À la non-action de l'État colombien. Vis-à-vis de la pandémie et via une proposition artistique alternative qui partait avec des groupes punk mais avec des DJ sets et donc l'arrivée d'autres personnes qui faisaient des DJ sets comme Sol Tornasol ou DJ Chisme ou Post Neuras qui faisaient pas que du DJ mais aussi de la production donc voilà et de manière organique ça a grandi. Et moi, je suis arrivée en octobre, au moment en fait post-Covid, où il y avait une euphorie en Colombie, à Bogota, d'avoir subi autant de répression et d'enfermement. Enfin, les groupements sociaux n'étaient pas autorisés. Enfin, un peu comme ici, en mode confinement. Du coup, tout le monde avait envie de faire la teuf, et donc ils se sont organisés pour faire plus de teuf. Et je suis arrivée dans ce contexte-là. Donc, je pense cette initiative, elle est une réponse aussi à des non-actions politiques au niveau culturel. Donc, il n'y a pas d'institution qui aide quoi. Est-ce que je devrais
tout se fait par l'État, vous recevez aucune aide de l'État.
C'est de l'autogestion pure et dure. Enfin, c'est
Donc les communautés queer sont très liées à votre projet. Il y a quand même une notion d'espace d'entre-soi safe et de la culture par nous et pour nous.
Ouais, c'est ça. Oui. Bah, c'est. Je pense que la fluidité des genres qu'on utilise. Enfin, en fait, la fluidité des genres musicaux. Enfin, les hybridations qui se créent entre les musiques électroniques et les musiques plus traditionnelles propres à la Colombie ou à l'Amérique latine en général, elles découlent aussi peut-être de la fluidité de nos identités. Et enfin, je pense que chaque personne qui est entrée dans le collectif a apporté un peu de soi. Je pense pas que... Enfin, on avait du mal un peu à se définir comme collectif. Enfin, qu'est-ce qu'on était, qu'est-ce qu'on voulait avant la tournée. Et je pense que devoir se présenter aux gens, devoir discuter de qui on est, ça nous oblige à faire cet exercice, à penser à peut-être... Parce qu'on évitait aussi les étiquettes, parce qu'on est dans cette fluidité. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a beaucoup discuté, ce truc de quelle est notre place vis-à-vis de la communauté queer. Et je pense que il y a des gens dans le collectif qui en font partie, d'autres qui n'en font pas partie. Et je pense qu'on ne peut pas revendiquer comme une unité nous représentant, mais qu'on ne peut pas nier l'existence de la queerness, comment elle a traversé le collectif et comment ces communautés-là, elles ont été aussi un appui grand pour le collectif. Yes. Warrior. Impressionnant.
Ok, super. Ouais,
pardon.
On est arrêté par des petits bruits de rue. Merci Roméa. Pour parler de toi plus individuellement, outre le mix, parce que tu es DJ, et l'organisation des vêtements d'hiver, donc tu as organisé notamment les soirées Pereo Combativo ou le festival Agitation Résistance par le Kiff, donc sur Bourges. Tu as pu te produire en tant que chanteuse, illustratrice, performeuse et animatrice radio. Toi-même, dominatrix, tu es très proche du mouvement LGBTQ féministe et des milieux du travailleuse du sexe. Tu défends à travers tes propositions une certaine idée de bienveillance et d'entraide entre les minorités opprimées, tes thèmes de prédilection, l'interconnexion entre art et désir, la santé sexuelle via la pratique de l'autogynécologie, la place de la diaspora latino-américaine dans l'espace public, et enfin, mais surtout, tu milites pour que les femmes, les personnes queer et les travailleuses du sexe obtiennent la sécurité et la reconnaissance qu'elles méritent. Donc du coup, comment tu as intégré ce collectif? Comment s'est fait la rencontre, ton intégration? Tu viens un petit peu de l'expliquer, tu es venue en stage, mais voilà, quelle était ta proposition en arrivant? Voilà.
Alors, merci pour cette description. ouais, moi je suis arrivée en stage à cette maison culturelle en cherchant... Enfin, moi, je suis franco-colombienne, mais j'ai grandi en Picardie et j'avais un rapport à la Colombie très familial et enfin, ouais, que dans ce prisme-là. Et en fait, j'avais un réel intérêt de reconnecter ou de connaître le pays de ma mère, le pays de ma grand-mère, de mes oncles et tantes, cousins. Et ça passait à travers, pour moi, ce qui m'anime, donc l'art... mais pas l'art dans les galeries, l'art autogéré, la musique, la création d'espaces, pas des communautés opprimées dans lesquelles je peux faire partie, mais à différentes échelles. Et ça va ? Ouais. Et du coup, ouais, je sais plus ce que je disais. Bah, je suis arrivée à Ratrap comme ça et je voulais pas me... prendre un espace qui n'était pas forcément le mien. J'étais plus là en mode observatrice de ce qui se passait et genre juste à la rencontre des gens et de leur musique et de leur manière de lutter, leur manière d'exister. Et en fait, ça résonnait beaucoup sur les choses qu'on faisait à Bourges aussi, en mode... Enfin, quand on avait rien... Enfin, on n'avait pas d'espace aussi là-bas, dans le centre de la France, pour faire la teuf ou pour exister en tant que LGBT ou... enfin d'autres identités, et donc voir que la teuf c'était politique aussi de manière viscérale là-bas, ça, enfin, on a connecté sur plein d'idéaux politiques et sur la musique aussi, parce que enfin à Bourges c'est grave noisy et musique concrète et enfin c'est les espaces dont j'évoluais, et c'est genre se réapproprier aussi ces espaces-là avec des musiques latino-américaines en France, c'était compliqué, mais le faire avec des gens qui les font évoluer dans d'autres espaces aussi en Colombie, c'était super enrichissant. Et genre, ouais,
t'as commencé par faire de l'affiche de soirée beaucoup, non? De la peinture sur tissu.
Oui.
J'ai vu faire quelques visuels.
Oui, bah, la partie graphique était... Enfin, je venais aussi pour apprendre une technique, la sérigraphie, qui est une technique genre, super intéressante à travers l'énergie en fait, qui est mise à la création des objets. Genre, j'aime bien leur philosophie dans, qui n'est pas juste d'imprimer une image, un visuel, mais c'est de travailler en collectif pour la production d'un objet qui va servir pour autre chose. Enfin, je ne sais pas, genre, il y a... dans l'économie de la sérigraphie et dans la manière dont c'est créé, c'est profondément lié au collectif et à l'énergie collective. Et c'est quelque chose qui est profondément punk aussi. Mais le punk peut être super dogmatique dans la manière dont il existe. C'est une réponse à l'État et à la politique colombienne, mais aussi il va être plus dogmatique au niveau sonore et musical. Et du coup... la réponse de Isconfierno, c'était bah, d'ouvrir aussi ces espaces à d'autres sonorités et pas que le punk, quoi.
Ok. Donc, tu es en tournée en France, en Europe, hein, depuis 3 mois maintenant. On arrive au terme de cette tournée. Tu as été accompagné de Post Tenebras, ici présent, donc productrice, DJ et artiste visuel. Sol Tornasol et DJ Chisme, qui sont DJ...
producteur
et productrice aussi, et FKS, DJ et réalisatrice vidéo.
Et photo.
Et photo. Alors, en dehors de vous cinq, combien de personnes sont impliquées dans le projet? Comment sont gérées ou du moins partagées les espaces de travail, de représentation? Est-ce que c'est en mouvement? Est-ce qu'il y a des membres vraiment fixes? Ou est-ce que tout le monde peut participer, comme tu dis, apporter sa pierre à l'édifice? C'est vraiment une plateforme, plutôt une, je vois, maintenant que tu viens de me l'expliquer, c'est plutôt une plateforme à laquelle tous les membres peuvent tous les gens de l'extérieur ou de l'intérieur peuvent se saisir.
Ouais, bah c'est plutôt la dernière partie. Ouais. Une plateforme dont les gens qui gravitent autour de Disconvierno, qui font partie en fait des événements au fur et à mesure, pouvaient aussi proposer des choses à travers cette plateforme. Je saurais pas dire combien de personnes gravitent autour, mais on va dire qu'on a un noyau de 5 personnes qui font la tournée en ce moment, qui ont eu les propositions et qui ont mis le plus d'énergie, on va dire, à construire quelque chose autour de la scène club. Donc c'est, on va dire, la partie club de Disco Infierno, c'est nous, et on fait vivre cette plateforme à travers ça, mais il y a d'autres personnes qui ont d'autres propositions, plus autour de la radio, autour de juste prendre Disconfierno comme un truc, de faire une après-midi d'écoute comme Ostara ici. On cite les gens.
Performance, du tatouage.
Faire des foires d'art graphique. C'est une plateforme qui était aussi super organique dans sa manière de ne pas se définir. Donc, ça a permis une fluidité de proposition, une effervescence de proposition. Mais ça prend la direction en fait, que les gens qui sont dedans veulent. Et c'est un peu flou, mais c'est bien.
Non, c'est bien, c'est vrai. On va parler peut-être plus musique. Donc... pour moi, les scènes musicales hybrides se multiplient en Amérique latine depuis les débuts des années 2010. Donc on voit de plus en plus de fusions entre des sonorités plus expérimentales, noise, techno, même voire hardcore parfois, et les cultures populaires latines comme le reggaeton, la cumbia, la guaracha, le dembow, le kuduro. Je pense notamment au collectif Nafi, qui s'est créé au Mexique et qui est assez précurseur sur le mouvement. Est apparu ensuite les labels comme La Puti Vuelta qui est à Bogota, Ghetto Witches au Guatemala, Rebote Discoteca à Buenos Aires, même au Brésil avec Zona XP et tant d'autres. Hein. L'aura de ces labels est telle qu'elles influencent pour moi grandement les productrices européennes et européens, jusqu'alors très éloignées de la culture latino-américaine. Donc, est-il facile de s'insérer et développer une pratique artistique en Colombie? Donc, tu m'as dit que pas vraiment. Subissez-vous une répression policière importante? Comment ça se passe pour l'organisation de vos événements? Est-ce que vous faites ça, j'imagine, très caché, en souterrain? Est-ce que c'est facile de faire officiellement des choses ou vraiment tout vient du bas?
Tout vient du bas, mais On va dire que ça dépend des structures. Il y a des structures qui ont des moyens de communication différents parce qu'elles existent depuis genre une dizaine d'années. Genre les, par exemple, plus des scènes, on va dire, moins hybrides, plus du techno, plus du hardcore, qui, eux, fonctionnent aussi en super en souterrain, mais qui ont déjà les contacts, les réseaux. Et enfin, pour la scène locale en Colombie, à Bogota, surtout, que c'est celle que je connais, l'organisation de TUF, elle passe beaucoup dans une communication des réseaux Instagram et des réseaux qu'on a entre nous. Et il y a une volonté, je pense, en ce moment de travailler, de s'ouvrir aux autres collectifs. Enfin, on existe tous un peu de notre côté. On se donne genre les tips, les lieux pas chers. On a, enfin, la Puti Vuelta, ils ont aussi le système Genesis. Qu'ils mettent en location pour les autres collectifs de TUF.
Il y a un énorme système son rose fluo merveilleux.
Ouais. Violet, il est violet, il est magnifique. Le fonctionnement de la Puti Vuelta, que eux, ça fait 4 ans qu'ils existent, donc ils ont déjà plus un poids dans la scène locale. Enfin, ils ont déjà, on va dire, on les connaît, quoi. Et il y a plein d'autres gens qui continuent à faire évoluer ça, comme Correor. Avec ses fiestas, avec ses fêtes de qu'il organise avec Ale Rojo et tout, enfin c'est, je trouve que c'est assez effervescent et qu'il y a plein de gens en fait qui continuent à faire des choses. Ah, tu me parlais pas du tout de ça, tu me parlais de répression policière.
Non, aussi de vos connexions entre les collectifs.
Les connexions entre les collectifs. Mais c'est vrai que la répression policière, elle existe. Bon, déjà. Dans la vie en général, c'est un pays qui est super corrompu et la police aussi. Et je sais que par exemple, quand on fait des soirées, on doit faire un budget flic. Genre, ils vont venir et il faut les payer, quoi. Mais je sais pas, ça fait partie du système dont on doit avoir conscience quand on organise des teufs, quoi. Mais il y a des lieux qui ont été fermés comme ça, par exemple avec Bogotrax, qui est un festival de musique électronique, surtout techno, hardcore, drum and bass, qui était très fermé à d'autres musiques plus populaires comme la guaracha, enfin, qui a commencé un peu à évoluer ces dernières années en invitant la Puti Vuelta, Collective Queer, qui ont invité Oxtec, ou des gens genre vraiment du mainstream guaracha. Et par exemple, eux, ils ont eu des problèmes aussi avec les flics. Ils ont dû fermer toute une soirée parce que le budget était trop grand qu'ils demandaient les flics. Enfin, c'était... Enfin, une des soirées principales qui était gratuite, elle a été annulée. Mais ouais.
Est-ce que vous êtes présent dans la rue aussi ?
On est présent dans la rue. Bah, Bogotrax, entre autres, c'était organisé avec une marche, avec des camions et des systèmes son qui passaient pendant toute une après-midi. Et après, la présence des collectifs, elle est aussi au niveau des manifestations, au niveau des balls qui sont organisés dans la rue.
Est-ce qu'entre pays, du coup, en Amérique latine, vous arrivez à collaborer aussi ? Est-ce qu'il y a des connexions avec les autres pays ? Genre, est-ce que c'est facile de se déplacer, par exemple, d'un pays à un autre ? Ou est-ce que chacun se construit individuellement ? Les connexions se font peut-être par Internet, j'imagine, les collaborations ? Ouais.
Bah, pour l'instant, de ce qu'on a pu voir, en fait, on essaye d'inviter entre nous genre, des artistes d'autres pays. Et le billet, c'est comme aller en Europe. Genre, aller au Brésil, c'est comme aller en Europe de Colombie. Et, du coup, c'est hors de prix pour des économies qui sont sans autre revenu que juste générées par les entrées et l'alcool. Et sachant qu'il y a aussi du matos à payer, il y a des locations. Enfin, c'est super précaire et on ne peut pas se permettre forcément d'inviter des gens. Mais du coup, là, on essaie de réfléchir plutôt en termes de tournée. Comme ça, en fonction des collectifs et des plusieurs villes où ils peuvent passer, on peut rembourser à plusieurs des passages. C'est des trucs qu'on est en train de réfléchir avec d'autres collectifs qu'on veut faire venir des artistes d'autres scènes locales dans d'autres pays. Mais il y a aussi beaucoup genre de la diaspora latino-américaine où on a des amis, par exemple, je sais pas, Reno Sidra, qui est colombien mais qui habite à Buenos Aires et qui va travailler avec Hiedra. Du coup, il nous fait les connexions et genre c'est beaucoup des réseaux. Enfin, j'ai l'impression que c'était plus facile de rencontrer en allant en Amérique latine tous ces collectifs parce que tout le monde se parle et vu qu'on fait plus ou moins la même chose avec les genres musicaux qui nous appartiennent et les contextes sociaux qui sont similaires mais qui nous appartiennent aussi, je sais pas, ça se connecte quoi.
Est-ce qu'il a été facile pour ton collectif de se produire en Europe et au niveau du public?
Je sais pas si c'était facile, c'était beaucoup d'orga en amont, mais il y a un truc qu'il faut reconnaître et que je ne remercierai jamais assez, c'est la communauté queer, travailleuse du sexe et Latina qui nous ont accueillis en France et en Europe. Et c'est sur eux qu'on a le plus compté parce que les institutions, elles ne nous ont pas invités, elles ne nous ont pas bien payés. Ce n'est pas eux qui nous ont bien traités, ce n'est pas eux qui nous ont accueillis, qui nous ont écouté notre musique. Et c'est les gens qui nous ressemblent et qui genre, ont les mêmes struggles qui sont là pour nous. Quoi. Et enfin... Là, ouais, on a fait face à genre beaucoup de solidarité et ouais, beaucoup d'émotions trop belles partagées avec des personnes je sais pas les gens de la tournée. Merci.
Donc ben, du coup vous arrivez à la fin de votre tournée, donc vous allez vous produire en Suisse, en France, en Belgique et cette semaine à Marseille. Je reviendrai sur le programme après. Quels sont vos projets pour la suite? Un retour en Colombie? Construire un label?
Alors, ouais, pour l'instant, on sait tous qu'on va revenir en Colombie. Y a des projets de plusieurs personnes du collectif qui sont de développer ça en label. Et aussi peut-être voir si ce serait possible de faire une tournée en Amérique latine. Enfin... continuer dans cette optique d'ouverture, mais aussi plus revenir, peut-être s'éloigner de la scène club et revenir à une production musicale et ouais, comment, ouais, genre trouver plus un équilibre entre ça. Enfin, on verra.
Advienne que pourra.
Advienne que pourra.
Bah, merci pour tes réponses, Roméa. Merci à tous nos auditoristes ainsi qu'au public présent. Merci également à Chaba Radio et Igor pour la régie technique. L'intégralité de nos échanges sera disponible en réécoute sur leur page YouTube et SoundCloud. Mmh. Maintenant, place à Post Tenebras. Merci, merci. Ouais.
Arriba, pues en la ven a bailar. la brisa, el mar, la arena, pena disfrutar, arriba, gózala, ven a bailar, la brisa, el mar, la arena, pena disfrutar, arriba, gózala, ven a bailar, la brisa, el mar, la arena, pena disfrutar, arriba, gózala, ven a bailar. We'll be right back.
Academy.
Ketamine, meth, MDMA, and more.
Shabba. Shabba Radio. C'est une radio qui prend pas un auditeur parce qu'il va pas donner la fréquence.